Le pape, un peu penché en avant et les mains jointes sur sa robe, ne perdait pas un mot du récit.
« Alors l'autre enfant, le petit roi, qu'est-il devenu, Bouville? Qu'en avez-vous fait ?»«
Il existe, très Saint-Père, il vit. Nous l'avons, ma défunte femme et moi, confié à la nourrice.
Oh, avec bien de la peine, car la malheureuse nous haïssait, vous le pensez bien, et gémissait de douleur. À force de supplications, de menaces aussi, nous lui avons fait jurer sur les évangiles de garder le petit roi comme s'il était son enfant, et de ne jamais rien révéler à qui que ce fût, même en confession.
« Oh oh !»
murmura le Saint-Père. « C'est bien que le petit roi Jean, le vrai roi de France, en somme, est élevé présentement dans un manoir d'Île-de-France, sans qu'il sache qui il est et sans que personne le sache à part cette femme, qu'on croit sa mère et moi-même. »«
Et cette femme ?»
est Marie de Cresset, l'épouse du jeune Lombard Guccio Baglioni.
Tout s'éclairait maintenant pour le pape.
« Et Baglioni, lui, ignore tout ?»
Tout, j'en suis assuré, très Saint-Père.
Car la dame de Cressé, pour garder son serment, a refusé de le revoir, ainsi que nous lui avions ordonné. Le garçon est reparti tout aussitôt pour l'Italie. Il pense que son fils est vivant. Il s'en inquiète parfois dans ses lettres à son oncle, le banquier Ptolomei.
Mais pourquoi, Bouville? Pourquoi, puisque vous aviez la preuve du crime et combien facile à administrer, n'avez-vous pas dénoncé la comtesse Mao? Quand je songe, ajouta le pape Jean, que dans le même temps elle m'envoyait son chancelier afin que je soutienne sa cause contre son neveu Robert. »
Le pape pensait soudain que Robert d'Artois, ce géant tapageur, ce semeur de brouille, cet assassin sans doute, lui aussi, car il semblait bien qu'il eût trempé dans le meurtre de Marguerite de Bourgogne à Château-Gaillard, ce terrible baron valait peut-être mieux à tout prendre que sa cruelle tante, et qu'en luttant contre elle, il n'avait probablement pas tous les torts de son côté. Un monde de grands loups que celui des cours souveraines. Et dans chaque royaume, il en allait de même. Était-ce pour gouverner, apaiser, conduire ce troupeau de fauves que Dieu lui avait inspiré à lui, chétif petit bourgeois de Cahors, l'ambition d'une tiare dont il était à présent coiffé et qui par moments lui pesait un peu?
« Je me suis tu, très Saint-Père, » reprit Bouville, « par le conseil surtout de ma défunte épouse. » Comme j'avais manqué le bon instant de confondre la meurtrière, mon épouse m'a représenté avec justesse que si nous révélions la vérité, Mao s'acharnerait sur le petit roi et sur nous-mêmes. Il fallait lui laisser croire que son crime avait réussi. Ce fut donc l'enfant de la nourrice qu'on inhuma à Saint-Denis parmi les rois.
Le pape réfléchissait.
Ainsi, dans le procès fait à Madame Mao l'année suivante, les accusations étaient fondées, dit-il.
« Certes, certes, elle l'était. Monseigneur Robert avait pu mettre la main sur une empoisonneuse, une nécromancienne, nommée Isabelle de Ferrienne, qui avait livré à une demoiselle de parage de la comtesse Mao le poison dont celle-ci tua d'abord le roi Louis, puis l'enfant présenté au baron. Cette Isabelle de Ferrienne, ainsi que son fils Jean, furent conduits à Paris pour y faire leurs aveux. Vous pensez comme cela servait bien Monseigneur Robert? Leur déposition fut recueillie, et il apparut clairement qu'ils étaient les fournisseurs de la comtesse, car il lui avait déjà auparavant procuré le philtre, par lequel elle se vantait d'avoir réconcilié sa fille Jeanne avec son gendre, le comte de Poitiers.
« Magie, sorcellerie, vous pouviez bien faire griller la comtesse, chuchota le pape. »
« Plus à ce moment, très Saint-Père, plus à ce moment, car le comte de Poitiers était devenu roi et protégeait beaucoup Madame Mao, si fort même que je suis assuré dans le fond de mon âme qu'il avait partie liée avec elle, au moins dans le second crime. »